question. J'ai deux, trois petits détails à préciser. Peut-être que quelqu'un va le dire tout à l'heure, mais si quelqu'un doit partir avant la fin, de laisser le badge si possible. Il y a un petit carton pour cela. Et Jérémy me rappelle qu'il y a des personnes qui se sont inscrites comme associées, mais il faut aussi veiller à payer la petite cotisation qui va avec le papier que vous avez signé. Donc voilà, c'est Jérémy qui va s'en charger. Voilà. Alors, nous n'avons pas de micro-baladeur. Et on s'est posé la question, comment on va faire? Non, ça c'est votre micro pour vous. Donc, on est limité à un micro qui passe devant ici et un micro pour moi et pour vous. Ça veut dire que si vous avez une question à poser, je sais que c'est difficile, mais on va vous demander de venir et poser la question dans le micro. D'une part, tout le monde l'entendra. D'autre part, on avait un petit peu peur, ou moi j'avais un petit peu peur, que si la question était longue, que je le retraduise mal, je le reformule mal pour les orateurs. Donc voilà, je sais que c'est peut-être un exercice un petit peu plus difficile que de remplir un papier avec une question, mais c'est peut-être une autre solution, si vous avez un papier, vous voulez écrire une question sur un papier, de le donner à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Bon, on le passe un peu au milieu, on le fait suivre. Sinon, vous montez ici, vous posez la question. Donc voilà, tous les orateurs sont là. Je pense que la règle du jeu, ça va être la suivante, c'est qu'on ne va pas demander à tous les orateurs de réagir pour chaque question. Ça va être trop long. Donc, je pense que la première chose à faire, si possible, c'est de dire, j'aimerais poser une question à tel ou tel orateur. Si un des autres orateurs dit, j'aimerais aussi rebondir, je ne vais pas l'empêcher. Hein, ce serait intéressant. Mais on ne peut pas demander à chaque orateur de réagir à chaque question. Comme j'ai dit tout à l'heure, en forme de blague, ce n'est même pas une table ronde, c'est une table linéaire. Donc, vous n'êtes pas... Les orateurs ne sont même pas en face les uns des autres. Alors, qui est la première personne qui veut poser une question? Voilà. Heureusement qu'il y a toujours des personnes qui vont poser la première question.
Il y a un micro là déjà. Moi.
On pose la question.
Oui, la question va d'abord à Nicolas Rey qui nous a fait une présentation de la dispersion de Homo sapiens dans le monde, par exemple vers l'Asie, puis après vers le détroit de Bering, puis jusqu'en bas de l'Amérique, par exemple. Et ça permet de suivre, comme il a expliqué, des évolutions, des appauvrissements génétiques, des maladies de ceci, de cela. Il a parlé aussi des langues. Le problème des langues, c'est... au-delà de 10 000 ans, tout est confus parce que les langues évoluent très très vite. Nos langues, le français, l'anglais, etc., évoluent en ce moment très vite aussi. Et il n'a pas beaucoup parlé des mythes, c'est-à-dire la conservation dans une culture des éléments originels. Par exemple, le mythe de la création, le mythe entre guillemets, hein, de la création du monde, on le retrouve en Australie, donc avec des populations qui sont arrivées il y a 60 000 ans, et le mythe, entre guillemets, du déluge, il est en Amérique du Sud, et il est à peu près dans toutes les cultures. Donc le mythe est plus résistant que la langue, qui, elle, évolue très très vite. Et bon, c'était pour savoir si on pouvait en dire un mot, quoi.
Alors, merci pour cette question. J'en ai pas du tout parlé parce qu'évidemment, c'est pas du tout mon domaine. Là, il faudrait un linguiste ou certainement un de mes collègues ici saura répondre beaucoup mieux que moi, mais je ne peux pas répondre sur les questions linguistiques, malheureusement.
Est-ce que quelqu'un aimerait... Merci.
Alors... Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, si c'était une question. sur l'origine des mythes, nous n'avons que des textes pour nous fournir des informations. Voilà, mais ce sont des, on a bien sûr des informations orales modernes dont nous n'avons pas la possibilité, que nous n'avons pas la possibilité de tracer sur des siècles et des siècles dans le passé. Donc, on peut toujours se demander, mais c'est pas du tout ma spécialité non plus, hein, d'où viennent ces mythes? Est-ce qu'il y a des transmissions, des migrations de mythes, même relativement récents? Parfois, il y a des missionnaires qui ont même transporté des choses avec eux. Bon. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas une question, mais une remarque. Vous avez peut-être plus de choses à dire là-dessus que moi, en fait. Mais tout ce que je peux vous dire, moi, en fonction de mes domaines de compétences, c'est que les mythes que nous avons qui sont écrits, c'est à partir du 3e, 2e millénaire avant notre ère. Après, est-ce qu'on peut essayer en Mésopotamie? Est-ce qu'on peut remonter plus loin, en Égypte? Voilà, après...
Je pense que, en fait,
il n'y
a pas forcément ici quelqu'un qui se croit, disons, compétent en la matière.
Ouais.
C'est peut-être la faute à Napoléon III, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tu voulais encore ajouter quelque chose?
On n'est pas des anthropologues, c'est sûr. Un prof de théologie, c'est pas la même chose. Tu as dit, il y a des cours de missiologie qui évoquent aussi les cultures des pays. Enfin, il n'y a pas de missiologue ici, donc. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et on va essayer de poser les questions.
Est-ce que je peux ajouter un mot?
Non,
simplement de lectures anciennes, je retirerais l'impression qu'il y a trois grandes hypothèses qui voudraient au moins rendre compte, qui prétendent rendre compte de la présence de mythes qui se ressemblent fort dans des aires géographiquement très très éloignées où il ne semble pas y avoir eu de contact historique. Et il y a l'idée d'une mémoire qui serait effectivement transmise par les voies culturelles ordinaires du récit, mais qui remonterait carrément à Adam et Ève. C'est une hypothèse qui a été défendue. Il y a l'hypothèse de l'inconscient collectif. Ça a bien sûr été gonflé et travaillé de manière très très riche par Carl Gustav Jung. Et moi, je me méfie fortement de l'influence de cette psychologie des profondeurs de Jung. Mais l'idée d'inconscient collectif est-elle absolument à exclure? Bon, deuxième hypothèse, donc. Troisième hypothèse, les mythes semblables seraient produits par des conditions semblables, des structures de l'esprit humain au contact de l'expérience, de telle sorte qu'il n'y aurait aucun rapport génétique entre un mythe amérindien, un mythe africain, etc., mais que les humains, tels qu'ils sont faits, aux prises avec des expériences relativement semblables, produisent des mythes qui se ressemblent. Voilà les trois hypothèses que je crois avoir rencontrées.
Merci. Une question?
Alors, je pose ma question en tant qu'étudiant en théologie, donc elle s'adresse surtout à ceux qui nous ont fait un exposé plus directement lié au texte biblique. Et puisque j'ai un accès en tant qu'ancien étudiant à la faculté de Vaux-sur-Seine assez facile à M. Buchold, à M. Richel et à M. Blocher, j'adresserai plutôt ma question à M. Denis Alexander. Votre présentation m'a vivement intéressé, notamment j'ai trouvé intéressant de situer dans le deuxième modèle, celui de l'homo divinus, le récit de Genèse 2 et 3 à l'époque du néolithique, notamment parce que ça permet un lien plus facile avec le début de Genèse 4 et l'engendrement de K1 par Ève qui dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un être humain ». Et comme Genèse 4 suppose un environnement qui est agraire du néolithique, ça me semble plus simple. Genèse 4 avec le fait d'élever des animaux et l'agriculture qui va avec. Cela dit, j'ai un ensemble de remarques qui demanderaient peut-être une réponse. Je me suis demandé dans quelle mesure, dans le modèle que vous proposez, il était pertinent de se poser la question de savoir si ceux qui sont venus avant Adam et Ève pouvaient être sauvés ou pas, dans la mesure où, s'ils ne sont pas des êtres théologiques, à un certain niveau, ce sont des animaux. Et donc, la question ne se pose pas plutôt de la même manière que de se poser « est-ce que mon chien ou mon chat est sauvé ?» La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faudrait distinguer, j'aimerais avoir votre avis, entre mort spirituelle et absence de vie spirituelle. Puisque vous avez fait l'analogie entre les 10 millions de personnes qui vivent en région parisienne et les 10 millions de personnes qui vivaient à l'époque du néolithique, leur cas est peut-être différent dans la mesure où ils n'avaient pas le souffle de vie, spirituellement en tout cas, alors qu'il a été perdu pour nos contemporains. Après, il y a les questions qui sont liées peut-être au rite funéraire ou à la conscience religieuse. On peut peut-être supposer des degrés de conscience chez les animaux. Peut-être une abeille n'a pas la même conscience du monde qu'un chien, qu'un homo sapiens. Mais cela dit, ça ne veut pas forcément dire que c'est religieux en tant que tel, même s'il y a une conscience du monde extérieur et peut-être même d'un monde spirituel. Et la dernière remarque, c'est l'utilisation théologique des catégories de grâce et d'œuvre que vous avez utilisées. Je me demande dans quelle mesure on peut parler de grâce pour ce qui se passe dans le jardin d'Éden, puisque c'est précisément la loi qui va être donnée. Et je me demande s'il ne faut pas faire la distinction que fait Meredith Klein entre unmerit et demerit. Donc la grâce, ce serait le fait que Dieu nous donne une faveur malgré le fait que nous soyons mauvais. Et unmerit, ce serait le fait que Dieu nous donne de bonnes choses, même s'il n'est pas obligé de le faire, mais c'est indépendamment de notre question morale. Et ça aboutit sur ma question, la vraie. La vraie question, et M. Blocher a déjà suggéré quelques éléments à ce niveau, c'est comment est-ce que l'espèce Homo divinus ou Homo theologicus, Homo sapiens theologicus, s'est-elle propagée ? S'est-elle propagée de manière coextensive latéralement, c'est-à-dire au moment où l'homme est entré dans le jardin ou qu'il en est sorti ? Est-ce que tous les hommes Homo sapiens sont devenus instantanément theologicus ? Mais dans ce cas-là, si la grand-mère de Adam était vivant, l'est-elle devenue, alors que si son grand-père était mort, lui ne l'était pas? Ou bien est-ce que ça s'est fait progressivement, génétiquement, et dans ce cas-là, ça pourrait être par paternité que l'espèce s'est répandue? Désolé pour la longueur de la question, je vous remercie par avance de votre réponse.
So, how long have you got? Okay, I'll keep it. I understood question 1 and 3 and not question 2, but let me try and address the ones I understood. Do you want to paper set?
Yeah. Okay. Donc il va déjà répondre aux questions qu'il a comprises.
Okay. So I think the first question was about the status of, I mean, if we take Homo divinus or Homo theologicus seriously, what is the spiritual status of people before that time?
Donc, quel est le statut spirituel des personnes si on prend au sérieux cette notion de Homo divinus, Homo theologicus?
Yeah, I think so much really depends on. It depends also. I mean, it's a great range of views about the role of every living thing in the future kingdom, isn't there? I mean, there's a great range of views about that within the Christian community.
Il y a déjà une grande gamme de points de vue sur ce qui va se passer dans le royaume à venir par rapport aux êtres vivants. Même au sein des chrétiens, il y a des différences de points de vue.
I mean, I have friends who believe that every single living creature that, you know, has no free will. Let's think about beetles, you know, a lot of beetles. You know, they're all going to be in the fulfilled kingdom of God.
J'ai des amis qui pensent que même tous les scarabées qui n'ont pas vraiment de volonté propre vont se retrouver dans le royaume de Dieu.
And, you know, I don't know, I just think of the whole of the fulfilled kingdom being full of these glorious beetles. I'm not sure I want to be there, but anyway,
mais
just to...
Je ne suis pas trop sûr moi-même que j'aimerais être présent dans un royaume où il y a
we'll be changed, yeah.
Éternel but, avec autant de scarabées.
So in other words, then I have my good friend John Polkinghorne in Cambridge, you know, has a special, this is a typically English thing, you know, he loves his dog, he thinks that there will be kind of your domestic animals will be in heaven because you have a special relationship.
Et John Polkinghorne à Cambridge pense que parce qu'on peut avoir une relation avec un chien, que de tels animaux seront vraiment avec nous aussi dans le royaume à venir.
So I do think a lot depends on at what point does real responsibility to God begin. You know, when does that really start? When people start having possibility of a relationship to God that they are responsible for. I mean, that is the sort of key question here.
Donc la question clé, c'est à partir de quel moment on peut dire qu'on est en quelque sorte responsable devant Dieu.
So I think, obviously, we don't know, you know, but I would see maybe if you believe that animals and beings without real responsibilities just go extinct at death, if you believe that, then maybe that is the case, you know, for any living creature before real responsibility comes into being. Maybe.
Donc si, par exemple, et peut-être vous pensez que les êtres humains, les êtres vivants, tels que les scarabées, etc., disparaissent totalement, alors on pourrait appliquer la même pensée à ceux qui ont précédé Adam, Divinus,
so,
Divinus.
I mean, then, you know, the real responsibility comes when you have the knowledge, the tree of the knowledge of good and evil.
Parce qu'on n'est pas responsable devant Dieu tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'est pas devant cet arbre de la connaissance du bien et du mal.
And maybe at only that time is there then the possibility, you know, we have the possibility of life and death set before you, real life, real death set before you.
Donc là, on est devant la possibilité de la vraie vie et de la vraie mort.
So the third point was about grace. Yes, I understand the technical, you know, I can understand why a theologian would wonder how, you know, can we use grace? If we're in the Homo Divinus model, is that something we can really talk about? The understanding of grace, maybe it's the wrong word.
Donc je comprends qu'un théologien puisse avoir des réticences par rapport à ce mot grâce dans ce modèle homo divinus. Peut-être ce n'est pas le bon mot à utiliser.
But I think one thing I find attractive about the homo theologicus, homo divinus model, is that it portrays God's love and interactions with humans as being consistent, you know, all the way through scripture.
Ben, ce que j'aime avec ce modèle, c'est qu'on voit que l'action de Dieu envers les êtres humains est parfaitement cohérente tout au long des Écritures.
And so it has this idea of God showing himself, revealing himself to human individuals, not because they deserve it, you know, but because of his love, and he wants to start a new spiritual family on earth. That's the kind of idea in the model.
Donc Dieu se révèle à ce premier couple en quelque sorte, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il a décidé de le faire dans son amour, et on retrouve ce modèle à travers les Écritures.
And then after the fall, of course, you have this wonderful picture of, I think, definitely we call it grace, you know, of God calling Adam, where are you? You know, the sort of call of God. It's always God taking the initiative in restoring humanity to himself.
Et après la chute, nous avons cette image de la grâce quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Donc c'est toujours Dieu qui vient, qui prend l'initiative de revenir vers l'homme.
But I accept technically, you know, the technical use of the proper theological use of the word grace is probably not quite right as I was using it. I'm happy to accept that.
Mais peut-être techniquement, le mot la grâce n'est pas le bon mot.
So the second question I didn't understand completely. So what was that about? I didn't follow it.
Spiritual death. Ok, c'est la provocation. Ok.
Yes, I guess, you know, this is where the idea of federal headship comes in. The idea is that as God calls Adam into fellowship with himself, so that possibility of knowing God in that particular way kind of begins, you know, spread in a representative way to the whole of humanity. That's the idea. It's a theological idea. It's not a mechanistic idea, but more a theological concept.
Donc c'est plutôt une idée théologique que cette vie se propage aux autres à partir du moment où Dieu se révèle à ce couple. Il ne faut pas le voir de façon mécaniste. Mécanique, je parle.
I mean, it is a theological concept, but it's almost like, you know, the referee blows the whistle and says, right, well, I'm going to start my spiritual family on earth, you know, and we're going to start here with these people, but, you know, this possibility now has become... it's become a possibility for everybody potentially to know God in a personal way and to become part of his family. And that's the idea.
C'est comme un match de foot où l'arbitre siffle le coup d'envoi pour dire maintenant, à partir de maintenant, cette possibilité est là. Le match a commencé, en quelque sorte.
And I think the next question was from Henri Blanchet, I think, wasn't it?
No.
Wasn't there another word around the back?
No, he's...
C'est à moitié une question, à moitié une remarque, et je ne sais pas à qui la poser, mais on cherche où commence l'être humain dans l'histoire, alors qu'on a une continuité. On pourrait poser la question parallèle. Où commence la vie d'un être humain responsable dans notre vie personnelle? Est-ce que c'est à la naissance? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est à 10 ans? Puis j'ai un petit peu l'impression qu'on ne peut pas donner une réponse au niveau où on essaye de les donner. Et si on pose la question du salut des enfants, on se trouve devant la même problématique par rapport à maintenant que celle qu'on pose sur l'histoire de l'humanité. Et il me semble qu'on n'a pas de réponse... dans les termes où on essaye de les poser, mais peut-être que vous en avez, je ne sais pas.
Quelqu'un aimerait prendre le micro pour cette question, Jacques ou...
Moi, je dirais simplement que j'apprécie votre remarque dans le sens où mon impression d'historien est celle d'une très grande continuité, et je pense que parfois la question d'un premier pourrait être une mauvaise question. Et souvent, je prends cette image d'à quel âge un enfant devient conscient. Parce que souvent, on définit l'homme philosophique comme responsable, conscient. On dit il y a un âge de raison à 7 ans ou quoi. Et puis, en fait, on ne sait pas, et ça n'a pas de sens de dire que telle semaine, il n'avait pas l'âge de raison, et que telle semaine après, il aurait l'âge de raison. Donc, en fait, nous voyons, nous sommes souvent confrontés à un processus continu. Et alors ça me rend très prudent sur la façon de poser ces questions, et ça me pousserait un peu vers une méfiance vis-à-vis de ces questions des premiers, de forcément un début. Je ne sais pas si c'est la bonne façon d'approcher ces questions, et je crois que bien réfléchir déjà sur ce qu'on serait capable de dire dans la croissance d'un enfant et dans ce qui se passe, peut-être nous éclairerait beaucoup sur la pertinence des questions dans les débuts. Bon, je ne veux pas aller plus loin.
Juste une remarque. Quelle que soit la réponse que l'on donne, il faut que l'humain, que l'on considère comme un vrai humain, aurait pu être un humain dans lequel le Fils de Dieu s'est incarné. Et Jésus-Christ est pleinement Dieu, pleinement homme, dès sa conception. Et à un mois, il était pleinement homme et vivait sa pleine réalité adamique sans péché, de la manière la plus parfaite qu'un homme pouvait vivre sa réalité humaine à un mois. Il grandissait en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Donc il faut que l'homme que l'on considère soit un homme qui était un homme dans lequel le Fils de Dieu aurait pu s'incarner. Donc je me méfierais beaucoup d'une sorte d'humain entre deux chaises, ou d'humain entre un mois et 8 mois, ou 9 mois, devenant plus humain. C'est un humain. À l'image, en image de Dieu, le Christ est incarné dans cet humain-là.
Une autre question ?
Oui, justement, vous allez tomber sur la difficulté que vous n'avez pas le même âge pour des néolithiques totalement indépendants au Moyen-Orient, en Chine et en Amérique centrale. En Amérique centrale aussi. Ils sont successifs, mais ils ne sont pas en dépendance l'un de l'autre. Ce sont des... Non, justement. Non, alors là, écoutez, il faut que vous fassiez un jour venir quelqu'un, un spécialiste du néolithique et de cette histoire-là, un archéologue, mais je pense ne pas tromper le public en disant que pour les archéologues et pour les gens qui font ça, ce sont des histoires indépendantes, que ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Amérique centrale et ce qui se passe au Moyen-Orient, ce sont des histoires indépendantes l'une de l'autre. Alors, cela dit, on parlait un peu de l'origine de l'homme, moi, je n'ai pas du tout évoqué le néolithique, parce que... L'homme est là depuis longtemps. Depuis, moi, j'ai dit que le consensus, c'est qu'à partir du moment où on a vu la grotte Chauvet et les animaux du Fogolaire, etc., plus de 30 000 ans, 30 000 à 50 000 ans, la plupart des scientifiques auraient le consensus que c'est déjà un homme comme nous. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toute une histoire culturelle après, et l'histoire culturelle après. Alors, c'est vrai que... Est-ce qu'il faudrait faire des étapes d'une histoire culturelle dans la continuité d'une histoire plus biologique, paléontologique? À ce moment-là, on pourrait poser d'une façon totalement différente la notion d'homme comme nous et d'un premier homme et retomber sur quelque chose de très différent. Si on parle du néolithique, on parle de culture... et éventuellement d'une première révélation ou quelque chose comme ça. C'est très différent.
On va. Non. C'est ici qu'on parle et pas ailleurs. Hein. S'il vous plaît, c'est ici qu'on parle et pas ailleurs. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Excusez-moi, mais c'était la règle du jeu. On parle ici. Une question là. Et après Lydia.
Bon, en effet, je me préparais à dire un mot. Je voulais souligner qu'il me semble quand même périlleux de trop séparer le privilège d'être en image de Dieu, d'être homo theologus, et puis des capacités artistiques, culturelles de haut niveau. Il me semble qu'il serait très artificiel de faire une séparation. Je crois qu'on peut plaider que c'est la transcendance qui caractérise l'être humain, qui se manifeste à la fois dans son souci religieux, dans ses constructions artistiques, dans son effort scientifique, etc. Et que, anthropologiquement, en théologie anthropologique, on ne peut pas faire une séparation trop forte. Et du coup, ce qu'on voit, moi je pense spécialement à la grotte Chauvet, elle m'est très chère parce que à 5-6 ans, je jouais tout à côté. Pendant la guerre, nous étions réfugiés dans le village de Vallon-Pont-d'Arc et la paroisse faisait ses sorties pratiquement à l'endroit où est la grotte. Hein. Donc j'ai ce souvenir. Mais la puissance artistique de ces représentations et le sens apparemment culturel de certains éléments au moins, ça me submerge. J'ai l'impression qu'ils sont totalement artificiels de dire ce ne sont pas des humains avec le privilège d'image de Dieu, de responsabilité devant Dieu qui est le nôtre. Oui. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter.
Merci. Donc, la question. Je voulais poser une question. Là, j'ai entendu, il y avait plusieurs thèses qui étaient évoquées. Il y avait la Homo Divinus qui me semblait quand même assez intéressant sur le côté pour les scientifiques. Ça me semble quand même relativement robuste, mais ça ne colle pas trop avec, comme Henri Blanchet a dit, sur le plan de sur la théologie, le fait que Adam paraît être vraiment le père de tous, et c'est vrai que pour moi ça ne me pose pas trop de problème le Homo Divinus, mais c'est vrai que quand je vois la théologie en fait évangélique qui évoque quand même très forte, ça pose quelques problèmes. Donc je voulais entendre un peu quelques commentaires des autres. Un peu, qu'est-ce qui bloque sur le plan scientifique le plus sur le fait que s'il y avait un couple, vraiment, je ne sais pas, vous avez évoqué il y a 200 000 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être c'est 100 000 ans, ou 50 000 ans, quelles sont les choses qui bloquent le plus sur le plan scientifique s'il y avait un couple d'origine, Adam et Eve, qui commençait en Afrique? Quelles sont les choses qui bloquent après? Est-ce que c'est l'immigration qui ne fonctionne pas? Quelles sont les choses qui bloquent cette thèse-là, qui est la thèse principale si on commence dans la Bible? Donc, c'est ce que vous avez dit, Henri Blanchet, en termes de commencer là.
Est-ce que j'ai bien compris? Par exemple, on a parlé d'une toute population, d'une petite population de 1000 personnes. Je ne sais plus qui a dit ça à un certain moment. Mais les deux personnes au début de cette population.
Oui, okay. On parle de deux personnes, Adam et Eve. Qu'est-ce qui bloque avec cette thèse sur le plan scientifique?
Ok, merci.
Alors, si je peux me permettre, en fait, toutes les données génétiques qui s'accumulent, donc que ce soit sur l'ADN mitochondrial ou l'ADN nucléaire, en fait, montrent que l'espèce humaine, la population humaine n'est jamais descendue en dessous de plusieurs milliers d'individus, plutôt entre 5 et 10 000 individus. Alors ça, c'est basé sur des méthodes statistiques hein, qui se basent sur le fait que s'il y avait eu seulement vraiment que deux personnes au début, eh bien on aurait eu vraiment une espèce de goulot d'étranglement extrêmement fort, et on aurait pas du tout la diversité génétique qu'on observe actuellement. Alors, bon, ça veut peut-être dire que, évidemment, les modèles statistiques et mathématiques qu'on utilise pour inférer cette taille efficace de la population sont erronés. Ça, on peut toujours le concevoir. C'est des modèles quand même qui restent qui reste assez simple. Ils ne prennent pas en compte une certaine complexité démographique. Mais je dirais quand même que c'est accepté. Il y a plusieurs modèles, vraiment différents modèles qui sont testés. Et tous convergent, et toutes les données convergent vers le fait qu'il n'y ait pas eu simplement un seul coup de fondateur. Maintenant, ce que j'aimerais juste ajouter d'intéressant, je pense peut-être pour la discussion, c'est que si on essaye de retracer par généalogie, je dirais, tous les êtres vivants qui vivent actuellement dans le monde, si on essaie de retracer à quelle période vivait le couple dont on peut retracer la généalogie tous les êtres vivants actuels, et ça on peut le faire, ça a été fait plusieurs fois. Alors là, c'est pas du tout basé sur des données génétiques, hein, c'est simplement basé sur des données démographiques et puis des modèles de dispersion entre les continents. Ça, on peut très bien le faire. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est assez robuste, que ce couple hypothétique, eh bien, aurait vécu à peu près il y a 5000 ans. Donc, comprenez bien ce que je dis, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a eu un couple.
Je peux juste un petit commentaire, parce que j'essaie simplement de réconcilier en fait la Bible avec la science, c'est pour ça on est là. Mais là, en fait, quand on lit le reste de la Bible, il y a Adam et Ève, mais après avec Cain, c'est Cain qui se marie avec quelqu'un d'autre, qui on pose toujours la question, cette autre personne vient d'où? Donc la Bible, il y a d'autres personnes là qui ne viennent pas de Cain, qui ne viennent pas d'Adam et Ève, clairement. Donc c'est juste de réconcilier les deux, mais ça c'est quand même un fait, hein.
Donc, comprenez bien ce que j'ai dit, oui, parce que c'est assez important. En fait, si on prend seulement du point de vue génétique et qu'on essaie de, on peut le faire avec l'ADN mitochondrial, de retracer la généalogie génétique seulement du côté féminin, ben on va arriver, alors on a appelé ça l'ève mitochondriale, ça c'est les scientifiques qui ont donné ce terme, peut-être un peu mal choisi, mais eh bien, et ça c'est très robuste aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, cette ève mitochondriale aurait vécu il y a à peu près 200 000 ans. Donc il y a 200 000 ans, il y a une femme qui a vécu, dont on peut retracer la lignée génétiquement parlant jusqu'à elle. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'était la seule femme qui vivait à l'époque, il y en avait beaucoup d'autres qui vivaient en même temps, simplement pour toutes les autres femmes qui vivaient en même temps, eh bien, peut-être certains de leurs gènes on peut les tracer jusqu'à aujourd'hui, mais simplement, ils sont passés par au moins un homme, et pas seulement par des femmes. De même, on peut faire la même chose avec l'ADN sur le chromosome Y, qui n'est passé que par les hommes, et là, alors on arrive de manière similaire à un Adam Y, c'est comme ça aussi qu'il est appelé, et là, toutes les données montrent qu'il aurait vécu à peu près il y a 140 000 ans, donc pas du tout en même temps que l'ève mitochondriale. Là, il y a plusieurs... voilà. Mais comprenez bien que ça, c'est simplement une reconstitution. Si vous prenez n'importe quel ensemble de personnes, on peut très bien, juste génétique, reconstituer un arbre phylogénétique de ces gènes, et on va tomber forcément par reconstruction statistique à un embranchement initial. Et cet embranchement se retrouve à peu près à 140 000 ans chez l'homme. Et il y a plusieurs hypothèses pourquoi cette différence. Mais ce que j'ai dit précédemment sur ces 5000 ans, c'est sans le tout l'aide de la génétique. Si vous ne passez pas par la lignée féminine ou masculine, mais que vous passez par la lignée généalogie, donc par les deux parents, ça converge beaucoup plus rapidement vers un ancêtre commun, vers un couple dont tout le monde provient, mais vraiment par rapport à une généalogie. Et ce couple, à peu près, aurait vécu il y a 5-6 000 ans. Mais, de nouveau, c'est une pure reconstruction basée sur des modèles démographiques. Mais voilà, je voulais le signaler aussi. On entend souvent cette ève mitochondriale. C'est pas du tout une date butoir pour l'humanité. C'est simplement une reconstruction de cette généalogie des gènes transmis uniquement par les femmes. Et on arrive à ces dates-là.
On va donner le micro à... Merci à Danis, et puis après, il y a d'autres questions.
Just to, can I just add one brief point?
Oui, j'aimerais ajouter quelque chose brièvement.
Just thinking of the origins of Homo sapiens anatomically in modern humans as a species.
Quand on pense aux origines de Homo sapiens.
As I was mentioning, it is. I mean, the understanding we have of speciation is of populations which evolve. It's not individuals which evolve. It's a population which evolves. Donc, a population which becomes reproductively isolated and therefore begins to acquire characteristics that are different from another population.
Donc en pensant à tout ce qui est évolution, on ne pense pas à l'individu, mais au groupement. Et donc au sein de ce groupement, ils acquièrent des caractéristiques et donc petit à petit, qui les différencient d'autres groupements.
So I think that's why, just from the scientific point of view, genetic point of view, the idea of a couple being the sort of origins of a whole species doesn't work. You know, it's just simply not how... how speciation works.
C'est pour cela que le fait même de penser à un couple, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on réfléchit, en fait, la, je ne sais pas si le mot existe, spéciation.
So I mean, Africa, you have this great sort of incubator. It's like an incubator of a speciation of different hominid lineages going on. But that's because they become... reproductively isolated from each other. If they were interbreeding continuously, you wouldn't get speciation. It wouldn't be possible.
Donc c'est comme si on est dans des couveuses différentes, mais à partir du moment il y a contact et donc fertilisation mutuelle, ça change un peu la donne.
So if you see Adam and Eve as the spiritual progenitors of all those present in this room today who by faith trust in God, you know, to know God in a personal way, I don't think there's any problem. But if you see Adam and Eve as the genetic progenitors of the whole population of the world, you have a scientific problem there.
Okay, so si on voit que Adam et Eve sont en fait, en quelque sorte, les parents de tous ceux, comme ici, chez nous, qui sont spirituellement vivants, en quelque sorte, il n'y a pas de problème. Mais si on le voit sur le plan, je dirais, physique, il y a un problème scientifique. Je crois, Lydia, non. Okay.
Alors, on a pas mal parlé du péché et de la responsabilisation de l'homme, mais il me semble que le témoignage, le texte biblique de Genèse 2, en tout cas tel que je le lis à première vue, suppose une ère historique d'harmonie entre le Créateur, l'homme et son environnement. Disons, une ère historique d'humanité fonctionnelle avant de passer à l'ère qu'on connaît qui est dysfonctionnelle. Est-ce que c'est juste de lire les textes bibliques comme ça ou est-ce qu'on a simplement besoin d'un concept théologique de l'homme fonctionnel sans période historique fonctionnelle et donc, est-ce que c'est juste bibliquement, théologiquement et quel problème est-ce que ça pose à la science? Voilà. Donc, qu'en pensez-vous en gros?
Alors, ce que j'ai essayé de dire, c'est que cela est important. Il faut maintenir une telle période d'harmonie fonctionnelle, comme vous l'avez appelé. J'ai dit, vous ne savez pas, 7 heures ou 7 siècles, et que je pensais que 7 heures, c'était trop court. Mais je maintiens ce principe comme un principe vital pour marquer quel est le caractère du péché et son rapport à la nature créée par Dieu, la nature humaine créée par Dieu. Donc cela, pour moi, a une importance vitale et je pense le maintenir. Alors ce que je n'ai pas eu le temps de développer, et je signale qu'il me semble qu'il y a une certaine latitude d'interprétation à ce propos, c'est s'il serait possible de concevoir une telle période pour une collectivité plutôt que pour deux individus. Je crois qu'à cause du reste de la Bible, pas tellement de Genèse 1 à 3, mais qu'à cause du reste de la Bible, en particulier à cause de Romains 5, mais pratiquement tous les autres passages, pas dans la suite de la Bible, il faut tenir à l'individualité d'Adam. Et je signale que pour son rôle paternel, il y a quand même aussi le texte d'Acte 17 qui n'a pas été cité jusqu'à présent, qui doit être mentionné. Paul dit, Dieu a fait donc toute nation des hommes d'un seul. Alors, dans certains manuscrits, il y a d'un seul sang, mais ce n'est pas tous les manuscrits, ce n'est pas les meilleurs, semble-t-il. Donc, mais il dit quand même d'un seul. C'est un point qui tient à cœur des auteurs bibliques inspirés. Donc, je crois qu'il faut maintenir cette succession et le fait que c'est un chef d'humanité bien individualisé qui en a été le contre-héros, disons. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas à mes yeux repérable dans les vestiges que nous avons. Bon, si on ne remontait que jusqu'au moins 5000, peut-être qu'on trouverait. Mais si on est obligé de remonter, bon, la date qui me plairait le plus par rapport aux données, ce serait 40 000. Parce qu'il semble qu'il y ait quand même une certaine mutation culturelle à partir de 40 000, comme on a dit. Mais comme je tiens à une paternité, il y a les aborigènes d'Australie, il faut que tout soit inclus. Et c'est là qu'est la difficulté. Est-ce que c'est conciliable? Peut-être, peut-être, mais c'est difficile.
Jacques. Concernant l'harmonie fonctionnelle, alors j'ai peut-être pas très bien compris, c'est entre Dieu, l'homme et l'environnement de l'homme. Mmh. Oui, alors c'est là que se pose la question de tout ce qui s'est passé avant. Hein. Les dinosaures, il y avait des gros dinosaures qui mangeaient des petits dinosaures et des méchants lions qui mangeaient des gazelles et la mort animale. Est une réalité, etc., etc. Donc je crois, et ça c'est vrai que dans les milieux évangéliques, je pense que moi je me dissocierais assez fortement de la conception du monde édénique qu'ont beaucoup de chrétiens évangéliques. La mort animale existe, et il n'y a rien de scandaleux dans la mort d'un animal. C'est la mort humaine qui, avant la chute, disons, qui a été introduite par la chute. Le couple. Ça se passait très bien, surtout qu'il ne devait pas se voir souvent, puisqu'il y en a une, il y en a un qui est de 140 000 et d'autres de 200 000. Alors ça, déjà la distance, ça arrange beaucoup de choses, mais alors le temps, là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment Ève est devenue la mère de tous les humains comme ça, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans l'Écriture, moi j'ai relu encore ces derniers temps Job. Et quand on voit à la fin de Job un béhémoth, enfin le crocodile et puis l'hippopotame, bon, enfin, c'est comme ça que c'est interprété. Dieu prend comme exemple de sa toute-puissance la manière dont l'hippopotame ou le crocodile chasse et détruit et dévore ses proies. Et je pense que quand M. Bocher parlait de l'agressivité, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le fruit de la chute, ça. Et donc, le monde dans lequel est apparu l'homme n'est pas un monde à l'eau de rose, disons. C'est un monde où il y a de la mort, où il y a des animaux qui chassent, des animaux qui tuent, des animaux qui meurent, où il y a peut-être des volcans, où il y a des... etc. C'est pas un monde calme et doux, et c'est un jardin qu'il faut garder et cultiver. C'est comme ça que je comprends, en tout cas.
Bon, il y avait quelqu'un au fond,
Juste dire une chose.
10 minutes.
Je me dis, lorsque Dieu souffle dans l'homme cette neshama, hein, où l'homme tout à coup a une dimension autre, il y a un ancrage dans l'éternité qui se fait dans l'homme. Je me dis que toutes ces pratiques de violence, etc., mais, qui ne sont pas coupables moralement si ce n'est pas l'action de personnes qui sont moralement responsables. Tout à coup, ça prend une autre dimension, tout ça. Et je me dis que ça a dû être une sacrée prise de conscience de l'être humain de ne pas pouvoir juger ou de ne pas pouvoir ne pas choisir les actes qu'il lui faut faire pour plaire à ce Dieu qu'il découvre. On peut imaginer beaucoup de choses.
Je pense qu'il y avait quelqu'un au fond, mais peut-être qu'il ne pose plus la question. Ah oui, voilà. C'est dans l'ordre où on a levé le doigt. Donc il y a une personne ici, une personne.
On va essayer de répondre à ces trois questions. Il reste 10 minutes.
Moi, ma question, c'est, je me demandais tout à l'heure, est-ce que je ne sortirai pas d'ici confus? Voilà. Oui. Parce que, pour moi, avec l'exposé sur l'évolution humaine, je me demande à quel moment Adam apparaît. Et si Adam apparaît, est-il un homme primitif ou... voilà, parce que la plupart des théories ou des thèses exposées ne me convainquent pas. Voilà, qu'est-ce que quelqu'un peut revenir sur... Est-ce qu'Adam est primitif ou Dieu crée quelqu'un de primitif ou Dieu crée Homo sapiens sapiens?
Voilà. Quelqu'un veut répondre à cette question?
Disons que moi, je dirais que pour moi, Dieu crée l'évolution en permanence. Alors, où est-ce que vous y mettez Adam? Je renvoie la question à un de mes voisins. Mais...
Si j'essaie d'incarner le plus possible le texte biblique, je dirais c'est de votre faute. Le texte n'est pas fait pour y trouver un australopithèque, un néolithique ou quoi. C'est pas fait pour ça. Donc, ça m'étonne pas du tout que ça soit difficile. Dans l'écriture, il y a des choses qui ne sont pas faites pour être harmonisées facilement, parce que le texte biblique est une narration. Il n'y a pas de raison de présupposer, de supposer à l'avance que cette narration devrait se couler naturellement dans le flot temporel qu'on retrouve scientifiquement. Ça ne veut pas dire qu'il y a contradiction, ça veut dire que s'exprime dans des termes tellement étrangers l'un à l'autre que ce n'est pas facile à faire coller. Mais lisez Jacques, lisez Paul dans le Nouveau Testament, ils sont formellement contradictoires et foncièrement d'accord entre eux. Le Seigneur a permis ça. Alors, il y a des choses qui sont difficiles à harmoniser, et c'est normal. Voilà.
Adam, je crois qu'il y a eu un seul Adam, je crois qu'il y a eu une seule Ève. Je crois que donc, l'humanité dépend, d'une manière ou d'une autre, de cet Adam et de cette Ève. Mais si on prend le texte biblique, c'est Adam et Ève qui ont chuté. Donc ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quelque part, pendant un très peu de temps, un couple, peut-être avec une image de Dieu qui s'est répandue sur une communauté, hein, si on prend la thèse fédérale, qui pendant très peu de temps a commencé à se dire est-ce que l'on accepte ou pas de vivre comme Dieu le veut. Et je me dis qu'il faudrait bigrement de la chance pour retrouver quelque part des traces de ce qu'aurait dû être l'humanité ou a pu être l'humanité pendant les quelques jours, mois, semaines, années, je ne pense pas les siècles, où Adam et Ève et peut-être ceux qui faisaient partie de cette humanité à l'époque ont été fidèles. Donc, tout de suite après, il y a eu le péché. Et si je prends l'histoire de la Genèse, Cain et Abel, c'est assez... ça ne change pas beaucoup des pratiques aujourd'hui. Les mecs, polygamie, la violence, les femmes... on voit quand même déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Bon, il est un peu primitif, l'homme. Il agit de manière un peu pécheresse, en tout cas, comme aujourd'hui. Il n'y a pas eu cette perfection qu'on pourrait repérer quelque part dans l'histoire... où on dit, tiens, là, c'est de l'homme parfait. Même le texte de la Genèse le suggère fortement. Donc, il ne faut pas être trop surpris.
Merci. Question suivante.
Voilà. J'ai deux questions. La première s'adresse aux théologiens. J'ai entendu tout à l'heure la solidarité avec Adam. Hein, c'est ce que M. Bouchol vient d'évoquer, évoquer le péché. La solidarité avec Adam qui entraîne la chute de l'humanité et la solidarité avec le nouvel Adam, en Jésus-Christ, pour la rédemption. Et dit comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une symétrie. Mais quand je réfléchis dans le détail, il n'y a pas de symétrie. Parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, la solidarité avec Adam entraîne la chute communautaire, alors que la rédemption en Jésus-Christ demande une adhésion individuelle. La rédemption communautaire va faire le lit de ceux qui sont partisans de l'universalité du salut, hein, c'est-à-dire que tout le monde est sauvé à partir du moment où on est solidaire que Jésus-Christ est mort pour nous. Donc pour moi, ce n'est pas donc une symétrie. Voilà, c'est la première question, qui est plutôt une remarque, à la limite. Et la deuxième question s'adresse plutôt les paléo-anthropologues. Bon, il a déjà un peu répondu quand même, parce qu'il a parlé tout à l'heure de que Dieu crée l'évolution tout le temps. J'ai bien aimé les diapos qui montrent l'évolution, les évolutions morphologiques, mais aussi les évolutions génétiques. Est-ce que ces différenciations qui ont entraîné l'irruption donc, de cet homme moderne, est-ce qu'elles sont gouvernées aussi par le hasard et la nécessité?
Donc pour la première question, quel est le théologien qui voudrait en 30 secondes... La première question, voilà. Donc,
pas de symétrie. Je crois qu'il est très intéressant de remarquer, au point de vue formel déjà, dans la deuxième partie de l'Épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 12, que Paul dit à la fois « de même que, symétrie », et il n'en va pas de la grâce comme de la faute. Il est très frappant qu'il combine, même formellement, les deux thèmes de la symétrie et de la dissymétrie. Alors, je ratifie entièrement ce que vous venez de dire de la dissymétrie. Je crois qu'il faut l'affirmer avec force. Et c'est même une raison pourquoi je ne lâche pas si facilement, vous en êtes aperçu, l'idée d'une paternité d'Adam, d'un rapport de vie communiquée à partir d'Adam. Parce que le lien avec Adam, la solidarité de la communauté pécheresse qui meurt en Adam, c'est par la naissance qu'elle se manifeste. Nous, psaume 51, nous naissons dans le péché. Nous sommes par nature des enfants qui sont sous la juste indignation de Dieu, Éphésiens 2. Donc, le mode de constitution de la communauté adamique, c'est la naissance naturelle. Ce qui va avec un rôle de père pour lui, des enfants d'Adam. En revanche, pour le nouvel Adam, la nouvelle humanité se constitue par le moyen du don de son esprit, et ce don de son esprit implique une décision personnelle de foi, d'où la dissymétrie. Et comme théologien, je fais une remarque de plus à cet endroit. Pourquoi cette différence dans la nouvelle humanité? Parce que la nouvelle humanité n'est pas une simple humanité bis que Dieu ferait ailleurs, puisque la première a raté. C'est l'ancienne humanité qu'il rachète. Le nouvel Adam entre dans l'humanité adamique, mais comme un nouveau chef, et triomphe du péché et de la mort, et ceux qui adhèrent à lui, alors bénéficient de l'appartenance à la nouvelle humanité.
Merci. Quelqu'un veut réagir à la deuxième question?
Je peux brièvement réagir à une mutation par hasard se produit dans un gène qui code pour une protéine. La plupart du temps, cette mutation est délétère, aura un aspect très négatif pour engendrer la mort immédiate de la cellule qui a cette mutation, mais parfois eh bien on a une mutation qui a un avantage, et puis eh bien la théorie le message principal de Darwin, c'est de dire que eh bien lorsque elle a un avantage pour avoir une descendance un peu plus nombreuse au cours des générations, cette mutation va se répandre à une fréquence plus haute dans la population. Ça c'est un des moteurs, mais c'est pas du tout le seul. L'autre moteur, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est des mutations dans notre génome qui, simplement par le hasard que des personnes ont plus d'enfants que d'autres, des personnes n'ont pas de descendants, des personnes en ont plus, par hasard, au cours des générations, des mutations qui n'ont absolument aucun effet, ou un effet très petit, négatif ou positif, sur un individu, vont soit disparaître de la population, soit croître, pour se retrouver dans tous les individus de la population. Et ça, c'est un moteur fort de l'évolution. On le, on atteste quotidiennement par de nombreuses études, de nombreuses données. Et donc, il y a vraiment cette notion de dérive génétique qui peut amener des espèces à se former, des individus à se différencier. Alors bien sûr, la notion de hasard, elle est relative. Dieu va au final va finaliser son plan, quoi qu'il arrive. Et dans ce cadre-là, est-ce que tout ce qui s'est passé pour nous par hasard dans ce génome avec des mutations qui semblent vraiment être au hasard, peut-on parler vraiment de hasard? Mais en tout cas, du point de vue des mutations qu'on trouve dans notre génome, de comment ces mutations se répandent dans les populations, on a là des phénomènes qui sont décrits comme étant pour la plupart complètement aléatoires.
Merci. Donc, je vais laisser assez de place pour Lydia pour la synthèse. Est-ce qu'on a quand même le temps pour la dernière question que j'avais promise? Oui. Question brève. C'est une question brève. Voilà. Alors, allez. Puisque je l'ai promis.
Mais non, c'est ta question. En fait, je botte en touche et je demande quid du déluge, en fait. C'est-à-dire, est-ce que le déluge ne permet pas de répondre un peu au problème de M. Blocher, qui était le père de tout le monde, c'est-à-dire qu'après le déluge, on retrouve uniquement Noé, qui est bien le fils d'Adam, et du coup, tous les post-déluviens seront bien les fils d'Adam. Mais le problème, c'est que... Enfin, ma question est plutôt d'ordre scientifique. C'est, est-ce qu'au niveau scientifique, on trouve... quid du déluge?
La question, effectivement, n'est pas trop longue.
J'ai peur de... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le déluge, en tant que réalité géologique universelle, s'est abandonné progressivement depuis le XVIIIe siècle. Je veux dire, la géologie ne montre pas de déluge universel. Donc, quand vous avez des discussions, c'est des discussions locales sur la mer Noire qui, à un moment, peut-être, s'est vidée, a été remplie brutalement, ou des choses comme ça, des choses locales. Mais le déluge, en tant que quelque chose qui aurait recouvert la planète, c'est sorti de la géologie. C'est la géologie qui pourrait le dire, quelque part, ou éventuellement des données d'extinction massive, et elles ne sont pas là. Donc...
Bon, je vais être obligé, je pense, de...
Toute petite remarque finale, parce que je m'attendais quand même à cette question du déluge. Donc.
La conclusion.
On n'a pas, en tout cas pour l'instant, de quoi que ce soit par rapport à ce déluge. Alors, je crois pouvoir dire qu'en fait, Noé, il y avait d'autres personnes sur ce bateau, qui étaient les servants, les servantes et les personnes qui ont aidé. Ce n'étaient pas les seules personnes qui étaient présentes. Donc, on avait... une certaine diversité génétique, certainement, qui était là. Et puis, bien évidemment, si on adhère à la thèse de Denis, eh bien, peut-être que ce déluge dénote effectivement que cette petite population de personnes qui avaient eu cette révélation, eh bien, a été anéantie, mais il y avait certainement des hommes ailleurs, des aborigènes ou d'autres ailleurs. Et donc, du point de vue génétique, peut-être que ce petit goulot d'étranglement localisé pendant un petit moment n'a pas pu être détecté, en tout cas pour l'instant, on ne le saura peut-être jamais, mais c'est ce qu'on a
pu. Merci. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient continuer, mais je vais remercier quand même à tous ceux qui ont participé à notre table ronde.